L'école a repris et les sports intérieurs aussi. Que ce soit badminton, volleyball ou encore pour l'entraînement, la boutique Fradette Sport vous offre un vaste choix pour compléter vos besoins. Autant pour les raquettes, ballons de volleyball ou chaussures de sport intérieur, les conseillers vous feront un plaisir de vous montrer tout ce dont il vous faut. Pour tous vos besoins sportifs, c'est chez Fradette Sport, place de la Cité.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 418-656-5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous ensemble vers la négo.
On est de retour à Gros Bon Sens, l'émission où on réfléchit en commun, même si c'est juste moi qui parle. Il y a du monde contre le tramway parce qu'ils trouvent qu'il y a déjà assez de fils électriques comme c'est là. Ben, vous avez raison, il y en a trop. Puis vous savez quoi? Avec le tramway, il va en avoir moins. Ils vont tout être enterrés sur le trajet, sauf un par direction. Le fil d'alimentation de la bête. C'est comme passer les fils de ta TV dans le mur, mais dans le sol. Pas pire, hein? Pif, pouf, une belle ville, propre, propre, propre. Grâce au tramway. Bon, on s'en va à pause. Si je pouvais, j'irais en tramway.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Schist 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes du son.
Bonjour à tous, bienvenue à The Kiwi Dinners, l'émission la plus fruitée de la Norderie, votre rendez-vous hebdomadaire de tous les samedis midi. Donc, il n'y a pas de match de rouge et or aujourd'hui, ce qui signifie que nous reprenons donc nos heures d'antenne habituelles. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai nos deux chroniqueurs fidèles, habitués, magistral et surtout pas pire élégant, Nassim et François. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous, c'était un plaisir, ça faisait un petit bout que j'étais pas venu, fait que merci pour l'accueil encore comme d'habitude.
Ben, c'est toujours un plaisir, écoutez, sans plus de lubrifiant social, on va commencer tout de suite à parler de nos anecdotes de semaine. Donc honneur à celui qui n'est pas venu depuis un certain temps, donc c'est-à-dire François.
Ok, c'est à mon tour, fait que là, moi ce que je vais dire aujourd'hui, en fait je suis vraiment heureux d'avoir recommencé mes games de Donjons Dragons. Ça faisait ce qu'on avait arrêté pour l'été. Et puis, quand on a voulu recommencer, ben là, en plus, il y a un de mes amis qui a tombé malade. Fait que là, on a fallu retarder encore. Mais là, enfin, on a pu recommencer les games de Donjons Dragons. Puis c'est quelque chose qui me fait bien du bien. Je suis vraiment content.
Tout à fait. De mon côté aussi, donc, on a recommencé les parties de Donjons Dragons. Dans mon cadre à moi, cependant, c'est un petit peu différent parce que là, il s'agit de temps plein. Donc, je suis constamment en train de parler de mériter la gorge. Comme de quoi les halls, c'est particulièrement efficace lorsque tu joues à D&D. Sincèrement, ça m'a sauvé la voix. Autrement, j'aurais pas pu être là aujourd'hui. Et au niveau des anecdotes, donc c'est surtout de la création de personnages qu'on fait actuellement, donc il n'y a pas grand-chose à mentionner de ce côté. Cependant, ce que je peux me permettre de dire, c'est que ça fait maintenant quelques années que je suis certain de mes groupes, et comme je l'avais dit la semaine dernière, ça fait un petit pincement au cœur de les voir prendre en maturité, de les voir être capables de maintenant expliquer les règles aux nouveaux arrivants, parce que les premières années, c'était forcément moi qui devais expliquer la totalité des règles, c'est moi qui faisais toutes les feuilles de personnages, ce qui faisait que les parties prenaient un peu de temps à démarrer. Cette fois-ci, là, j'ai des jeunes qui savent déjà comment faire les feuilles de personnages, qui sont quand même autonomes, et ça c'est un plaisir de les voir grandir. Ils ont beaucoup maturé pendant l'été, et ça fait bien chaud au cœur. Autrement, sinon cette semaine, j'ai été particulièrement occupé avec tout plein de projets mystères que je ne me permettrai pas de vous mentionner en onde pour l'instant, mais que nous finirons par dévoiler. Donc restez avec nous sur les réseaux sociaux afin de découvrir quel est le grand secret de votre animateur préféré. Et de ton côté, Nassim?
Moi, en fait, mon anecdote est dans le futur, dans le fond.
OK, tu sais que ça va se produire. des dons de préscience?
Ben, en fait, c'est ça. Moi, ma dernière game de D&D remonte à il y a comme 2 ans. Et prochainement, je vais faire une game de D&D, donc j'ai assez hâte. Là. Fait que c'est ça, mon anecdote.
Ah, ce qui me fait penser que... Ben oui, parce que c'est la même partie. Donc moi, ça va faire une éternité que je n'ai pas été joueur. Cette fois-ci, je vais pouvoir me permettre d'être joueur. Et ça va faire un plaisir. Ça va laisser une certaine chance à ma gorge de reposer, mais surtout ça va me permettre de relâcher toute la pression de tous mes joueurs qui ont fait des niaiseries en permanence. Donc je m'excuse d'avance au maître de jeu.
Tour de faire les niaiseries.
C'est mon tour de foutre
malheureusement la merde. Il sera plus maître du jeu, donc il pourra pas me sauver de mes mauvais DDG. Donc je vais vraiment me faire punir pour vrai. Comme j'avais déjà raconté, je suis très très mal chanceux. C'est pour ça, en fait, j'aime pas D&D, c'est parce que je tombe toujours sur des mauvais jets.
Ça fonctionne jamais.
C'est ça.
Avec les meilleures statistiques possibles sur un personnage, ben, il se contente d'avoir des échecs critiques, ce qui fait qu'il s'en sort pas.
Il y a rien qui te sauve d'un 1.
D'un échec critique, ouais, c'est ça. Fait que, sauf un maître du jeu ben ben gentil qui laisse passer des choses. Fait que, j'ai vraiment hâte, justement, ça. Moi, j'ai fait du D&D quand j'étais très très jeune. Puis là, ça, le maître du jeu était vraiment sans pitié avec moi.
Ouais.
Puis là, après, Jérémy m'a montré que non, c'est pas grave, Nassim, c'était pourri, je vais t'aider. Puis aujourd'hui, j'ai hâte de voir est-ce que je vais vaincre mon traumatisme de maître du jeu qui est sans pitié. Là.
Exact, c'est ça. On va voir ensemble, on va découvrir ce genre de choses.
Plusieurs styles de jeu, quand même.
C'est ça, exact. Fait que, c'est ça, c'était mon anecdote du futur, les amis. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon anecdote du futur.
Donc, je peux déjà parler pour le futur. Donc, malheureusement, belle anecdote, Nassim a eu un échec critique pendant la partie. Mais plus sérieusement, donc, on peut se lancer tout de suite avec nos chroniques. François, t'étais venu nous parler aujourd'hui de jeux de société, encore une fois?
Bien sûr. J'ai décidé de continuer un peu dans la même veine que la dernière fois, donc de parler de jeux assez plus connus, et puis de, si vous appréciez ces jeux-là, quel autre jeu vous pourriez apprécier aussi? Fait qu'aujourd'hui, je viens parler de jeux de stratégie plus abstrait, un peu comme les échecs, donc ou les dames, ou blocus, pour avoir de quoi de plus ludique. Donc, tous des jeux qui ont ce même les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire donc c'est des jeux assez abstraits, donc l'apparence du jeu ou la thématique du jeu est pas très forte, là. Donc c'est plus abstrait. Donc c'est aussi un jeu dans lequel il y a rien de secret, on sait tout sur le jeu et il n'y a pas de hasard. Donc dès le départ du jeu, on sait qu'est-ce qui peut arriver et puis on essaye justement de se créer une stratégie à long terme pour réussir la partie. On récolte ensemble et puis il faut mettre les pièces une à une d'une certaine manière pour essayer de mettre le plus de nos pièces possible puis essayer de bloquer les autres pour qu'ils soient plus capables de mettre leurs propres pièces. Mais dans tous les cas, c'est tous des jeux dans lesquels au départ, on a déjà toutes les informations de la partie. C'est d'ailleurs des jeux dans lesquels les ordinateurs excellent particulièrement à cause de ça. Fait que d'autres jeux qui peuvent être intéressants. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait changer? Parce que c'est tous des très bons jeux encore. Ça, contrairement à la dernière fois où je parlais de Monopoly qui, que vous avez le droit d'apprécier, comme je disais, mais qui a quand même des faiblesses importantes. Les jeux comme tous les jeux que j'ai parlé jusqu'à maintenant, je trouve que c'est des jeux qui se tiennent encore très bien aujourd'hui, puis qui sont pas les jeux que je vais vous amener, à mon avis, ne sont pas nécessairement meilleurs que ceux dont je viens de parler. Ils sont juste c'est, si on veut quelque chose d'un peu différent justement, ou dans certains cas si on veut avoir un jeu qui est plus accessible pour les gens qui, si on veut jouer avec quelqu'un de nouveau, parce que si on se lance dans les échecs, que nous on est un expert des échecs, puis qu'on veut apprendre des échecs à quelqu'un, ben, ça se fait, mais c'est sûr que ça va être Ça prend plusieurs parties d'échecs avant de pouvoir dire « Ouais, là, je suis capable de faire quelque chose qui a du bon sens. » Pour voir des jeunes jouer aux échecs presque tous les midis, c'est pas si évident. Là. Ça prend beaucoup de parties pour bien saisir le jeu.
Ça prend une connaissance des bonnes ouvertures, de quelles sont les stratégies, surtout savoir quand prendre un échange, quand ne pas le prendre, quand forcer le joueur adverse à faire un échange. Les échecs, c'est beaucoup de positionnement, hein, des parties professionnelles. Ça peut prendre une 15-20 tours avant qu'il y ait une pièce qui soit mangée.
Puis ben c'est ça. Fait que pour amener justement, ben, justement, tant qu'à être dans les échecs, en fait, je vais aller vers autre chose parce que là, j'ai un petit blanc sur le nom du jeu. Parce que c'est ça qui arrive aussi dans tous ces jeux-là, dans tous les jeux, dans presque tous les jeux que je vais vous parler aujourd'hui. C'est tous des jeux qui ont soit un nom qui ressemble à quelque chose, mais qui c'est pas tant clair, ou c'est un nom genre en japonais ou dans une autre langue asiatique avec des syllabes que je ne connais pas. Donc, c'est dur de retenir les noms des fois. Le premier que je vous parlerai, moi, ce serait Kamisado. Donc, Kamisado, qui est un jeu, d'ailleurs, qui n'est pas un très bon jeu pour les daltoniens. Désolé pour ceux qui l'ont fait, mais il est possible quand même. Il faut bien reconnaître les symboles, les kanji, pour être capable de jouer. Si on ne reconnaît pas les couleurs. Parce que dans le fond, c'est un jeu dans lequel on va simplement tenter d'amener. Donc, les deux, on a. Donc, c'est un jeu quadrillé, un peu comme les échecs. Et puis, on a des tours ou des pions qui font une rangée, chacun de notre côté. Et notre but, c'est d'amener un de nos pions, n'importe lequel, sur n'importe quelle case de la rangée de l'autre. Et puis, le principe intéressant dans ce jeu-là, c'est chaque fois qu'on va amener un de nos pions sur une case, toutes les cases sont colorées. Donc, et toutes nos pions, dans le fond, ont une couleur différente qui correspond aux mêmes couleurs que les cases. Donc, si j'amène mon pion sur le rouge, ben, mon adversaire devra jouer sa pièce rouge. Et ensuite, l'adversaire joue sa pièce rouge et l'amène sur le orange. Donc là, moi, je dois jouer ma pièce orange. Donc, on va toujours choisir la pièce que l'autre va jouer. C'est ça les règles. Donc, il y a beaucoup de jeux justement dans ce style-là que les règles sont super simples. Mais après ça, tu commences à jouer, puis là, tu dis « Ah, c'est facile », puis là, tu commences le jeu, puis là, tu réalises l'étendue des stratégies possibles puis des déplacements que tu peux faire. Et puis, Kamisado, ça, c'en est un de ceux-là que quand je le mets, ça joue uniquement à deux joueurs, quand je le mets sur une table, que c'est très, très populaire. C'est rare que j'ai présenté ce jeu-là et que les gens n'ont pas dit « Ouais, c'était un bon jeu. »
Puis, Kamisado, justement, tu dis que c'est pas nécessairement un jeu qui est simple pour les daltoniens. Je vais corroborer ce que tu dis parce que je regarde l'image et les carrés sont de toutes les couleurs. Là,
c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça a comme impact, ces couleurs-là, par rapport au jeu? J'imagine que c'est pas juste là sans raison, c'est pas juste là pour être beau.
Mais c'est ça. Mais c'est comme je disais, ça va distinguer c'est quoi la pièce que tu vas jouer. Il faut être capable de distinguer la couleur de là où je mets ma pièce puis de là où pour voir les possibilités. C'est sûr que si on mélange deux des couleurs, mais il y a quand même des petits symboles sur les cases, là, sur un des deux côtés de la planche de jeu. Ouais. Ce qui fait que c'est possible de jouer même sur la misère avec les couleurs.
Du moment qu'on parle japonais.
Non, ben c'est ça. Là. Ou en tout cas, qu'on est capable de distinguer les pions. C'est pas évident. Là. Je dirais que c'est définitivement meilleur si on voit bien les couleurs.
Et au niveau des stratégies, là, tu sais, là, on parlait des échecs un peu où on disait que, bien sûr, les échecs, c'est connu, il y a des livres à pu en finir sur la stratégie des échecs. à ce jeu-là, c'est-tu compliqué la stratégie? Si tu joues avec quelqu'un, ça fait longtemps qu'il joue, est-ce qu'il te met en échec en deux coups?
Ben, c'est sûr que ça peut arriver. Parce que c'est ça, comme dans tout ce genre de jeu-là, tu sais, t'es pas aidé du hasard, donc c'est entièrement dû à ta stratégie. Donc c'est sûr que si t'as un autre joueur qui a joué beaucoup de fois, ben, nécessairement, il va être meilleur que toi. Et puis, il va, ben, probablement, là, à moins que tu sois un prodige. mais c'est sûr que c'est pas un jeu aussi profond que les échecs. Là. T'sais, les échecs, il y a quand même beaucoup de pièces différentes avec des types de mouvements différents. Alors que dans Camisado, t'sais, tous les pièces se déplacent un peu de la manière un peu comme une tour et un fou. Pour ceux qui connaissent l'échec en même temps, ben un peu comme une reine. Mais on recule jamais dans le jeu-là. On avance, on recule pas.
On avance, on recule pas. Pas de politique, on en a dit.
OK, excusez.
Non, c'est bien correct.
Et puis c'est ça. Donc c'est un peu moins profond, mais justement, c'est un bon jeu aussi si on veut pas se casser la tête autant. Donc c'est un jeu qu'il va falloir réfléchir plusieurs coups en avance pour faire sa stratégie. Mais c'est sûr que c'est pas au même niveau que les échecs. Puis les parties vont être beaucoup plus rapides aussi. Là. Ça veut dire moins longtemps. Donc c'est un bon jeu aussi entre plusieurs jeux ou juste un soir, on veut pas trop se casser la tête, ou même sur l'heure du midi. C'est ça, c'est le genre de jeu qu'on peut amener pour jouer avec un de ses collègues sur l'heure du midi en attendant de retourner au travail.
Ça fait une version aussi un peu plus simplifiée des échecs, parce que les échecs, même s'il y a un nombre de coups qui est tout à fait fini, qui est limité, la réalité, c'est que je sais plus c'est quoi le calcul exactement, mais là, on était dans de la puissance exponentielle. C'est un nombre de coups qu'un ordinateur serait capable de calculer. C'est-à-dire que quand tu joues avec l'ordinateur en mode expert, il y a genre deux façons de le battre. Puis le cerveau humain est pas capable de traiter toutes ces informations-là. Mm-hmm. Tandis que j'imagine que dans Camisado, à un moment donné, tu comprends les stratégies qui sont plus claires.
Chose intéressante aussi, dans le livre de règles, il y a quand même des trucs de plus qu'on peut rajouter pour ajouter un peu plus de stratégie, justement. Là. Donc, tu sais, on peut transformer une de nos pièces en sumo, donc qui va pousser les pièces des autres, alors que normalement, on n'a pas le droit, on s'arrête sur les pièces des autres. Mais là, on rajoute des petites choses comme ça qui viennent encore modifier le jeu. Mais c'est un jeu bien intéressant. C'est pas un jeu, justement, qu'on va développer un univers de compétition comme les échecs, mais qui est bien le fun.
Ça a l'air vraiment intéressant, franchement. Ouais. Comme tu dis, c'est un bon petit jeu que tu joues sur l'heure du dîner ou même le soir, tout simplement une soirée entre amis où vous voulez faire une soirée jeu de société. Mm-hmm. Tu peux avoir ça dans le mix des jeux peux avoir. Une table de 2 contre 2 comme ça. Pas besoin de trop se casser la tête. Moi, personnellement, c'est ça. Il y a du monde, là, je me rappelle, dans des soirées, ils jouent aux échecs. Moi, je trouve ça tough un
peu.
C'est
ça. Moi, c'est trop pour moi. C'est ce type de réflexion-là, de trop réfléchir d'avance à tous les coups possibles.
Ça
demande beaucoup. Ça demande vraiment un type d'intelligence particulier, spécifique. Là,
ça rend le fait de socialiser aussi un peu plus difficile, là, parce qu'à moins que tu sois vraiment, vraiment bon aux échecs, puis tu connaisses les coups.
Oui, effectivement. C'est un jeu que ça se fait mieux de jaser. En même temps,
c'est ça, surtout moi personnellement, je suis un gars bien trop compétitif. Fait que là, si tu me mets aux échecs, je veux vraiment faire le meilleur coup, right? Fait que dérange-moi pas, mon ami, man. J'ai des puissances de coups à calculer.
On est allé jouer au dodgeball cette semaine, puis ça a réveillé la compétitivité à l'intérieur de la cime. C'était fou.
Je savais pas que le dodgeball c'était compétitif comme ça. Je
veux dire, tout peut être compétitif, ça dépend avec qui tu joues.
Ouais,
c'est ça. Je savais pas, j'étais comme, mais voyons donc.
Au départ, il vient. On est juste en train de jouer tranquillement, tout va bien, genre, puis d'un seul coup je vois qu'il devient super sérieux, puis que là il y a des stratégies qui sortent, là je me dis ok, on est parti.
Ok les gars, ok, là on a 3 balles, on vise la personne qui est habillée tout en rouge, là, let's go, 1, 2, 3, ta.
J'appelle ça la stratégie retour à l'école.
Okay, pour continuer dans la même vague, dans la même veine, j'ai retrouvé finalement mon jeu, que mon nom de jeu, donc c'est le Tokaido, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Là, je veux être sûr de ne pas me mélanger dans mes syllabes de jeu. Mais c'est un jeu, dans le fond, dans lequel, un peu comme les échecs, on va tenter de capturer le roi, là, dans ce cas-là, le grand maître de l'adversaire. À la différence que dans ce jeu-là, il n'y a pas des pièces avec des mouvements différents. Toutes nos pièces font le même mouvement. Il y a 2 types de pièces. Il y a la pièce principale, le grand maître, qu'on essaye de capturer celui de l'autre. Et on a des pions. Et puis, la manière qu'on va se déplacer, en fait, contrairement aux échecs, où ce que notre pion, chaque pion fait un type de mouvement, puis il va faire ce type de mouvement tout le long de la partie, on a en fait 2 façons qu'on peut déplacer nos pions. Puis les 2 façons vont être différentes pour mon adversaire et moi-même. Fait que quand c'est mon tour de jouer, je choisis une de mes 2 cartes qui me dit de quelle manière je peux déplacer mon pion. Donc là, par exemple, j'ai une carte qui... Ben, c'est ça, c'est un genre de jeu qui est dur à expliquer juste à l'oral. Là. Mais oh, je fais mon mieux.
Fais ton mieux, puis on va non, c'est si ça. On comprend. Ouais.
Donc, c'est petit, par exemple, justement, ah, ben là, cette carte-là me permet d'avancer par en avant, par en arrière ou sur les côtés, t'sais, un peu comme un roi qui va pas en diagonale. Mais c'est tout ce que la carte me permet de faire. Alors que là, j'en ai une autre qui me permettrait, mettons, de me déplacer comme un cavalier aux échecs. Donc, de une case vers le haut, deux cases vers la droite. Puis là... Et donc, si je décide de jouer cette carte-là, à ce moment-là, je dois déplacer le pion d'une des manières possibles avec ça. Et puis, être là. Fait que là, c'est ça. Puis là, les mouvements possibles vont changer en cours de partie. Puis d'une partie à l'autre, ça va être 5 cartes différentes, dans le fond. Là. Donc, c'est très intéressant pour ça. Encore là, qui est moins intense que les échecs parce qu'il y a moins de possibilités, mais qui est vraiment le même type d'intelligence, à mon avis. Mais avec plus de changements en cours de partie. Mm-hmm. Donc là, il faut réfléchir à des variables, mm-hmm. Mais c'est des variables qui sont prédéterminées en début de partie. Puis ça change uniquement selon ce que nous, on décide de faire.
Ouais. Puis, si j'ai bien compris, dans le fond, c'est qu'on pige les cartes?
Dans le fond, en début de partie, on te donne 5 cartes.
Okay.
Et puis, après ça, ces 5 cartes-là ne changeront pas.
Okay.
Ce qui change, c'est où elles sont. Est-ce qu'elles sont devant moi, donc je peux l'utiliser? Est-ce qu'elle est au milieu? Ou est-ce que c'est mon adversaire qui est là, donc c'est lui qui peut l'utiliser?
Fait qu'il y a comme une composante là, de chance dans ce jeu-là un petit peu? Ou...
Ben, dans le sens où la composante de chance est avant la partie. C'est comme si on décidait au début d'une partie d'échecs que le fou puis la tour allait être échangée cette partie-là.
Okay.
Fait qu'au final, une fois que la partie est commencée, il n'y a rien qui change. Okay. C'est déjà, tout est déjà prévu d'avance. Donc, il n'y a pas de chance dans le jeu. Mm. Mais il y a juste un changement du placement du jeu au début, dans le fond.
OK, parfait. Puis là, ce tirage-là, il change-tu... T'sais, qu'est-ce qui change concrètement? Est-ce qu'il change le déroulement de la partie? Est-ce qu'il change la complexité?
Oui, ben, ça
de la
va
partie?
Changer juste c'est quoi les types de mouvements qu'on va pouvoir faire dans cette partie-là. Puis évidemment, dépendant des cartes qu'on a mises, ça peut effectivement augmenter la complexité du jeu. Là. C'est ça, dépendant des types de mouvements. Il y en a qui sont plus faciles à garder en tête. Là. Comme je disais juste, le diagonal, c'est facile à voir, mais le chaude de 1 par en haut puis de 2 vers la droite, ben, ça, c'est un peu plus compliqué à...
Ouais. Puis au moment où on pige les cartes, est-ce qu'il y a un mulligan? C'est-à-dire que je sais que dans certains jeux de cartes, quand une fois qu'on a pioché les cartes, on a le droit de se débarrasser de mettons 2-3 cartes puis de rechanger ces cartes-là. Mm-hmm. Est-ce que y a ça?
Dans les règles du jeu, on fait juste les donner puis c'est ça.
Okay.
Mais concrètement, je veux dire, c'est comme tout, on peut décider de faire un placement spécifique ou justement pour surtout si on veut qu'on commence à être plus compétitif et à mieux connaître le jeu. Tu sais, pour une première partie, allez-y, juste au hasard. Là. Mais parce que c'est vrai que c'est dépendant des mouvements qu'on peut faire, ça peut nous avantager. Sauf que tous les mouvements vont changer en cours de partie.
Ouais.
Si j'utilise un mouvement, mon adversaire va le récupérer. Donc, à ce niveau-là, ça fait que même s'il y a un mouvement qui, en théorie, est plus fort, ben, il ne sera pas nécessairement plus fort dans la partie. Là.
OK.
OK.
OK, ça a l'air vraiment intéressant. Puis à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on dirait entre le premier que tu as conseillé puis celui-ci? Ce serait quoi le niveau de complexité entre ces deux-là? Puis je te dirais une autre question peut-être plus difficile. C'est lequel ton préféré entre les deux?
Personnellement, mon préféré, c'est Camisado. Je pense qu'il est un petit peu meilleur ou en tout cas, qu'il correspond plus à moi qu'est-ce que j'aime dans les jeux. Mais c'est en fait, honnêtement, les jeux que je vous parle aujourd'hui, c'est moins mon genre de jeu.
Okay,
moi, je suis quelqu'un qui aime quand même avoir une certaine dose de hasard. Uh-huh. J'aime m'adapter sur le moment présent. J'aime moins réfléchir 8 coups à l'avance.
Okay.
Ça, c'est moins mon style de jeu. Okay. Puis je pense que, en fait, probablement que Camisado est un jeu qui est plus rapide et qui a moins de trucs à réfléchir d'avance. Tu peux faire des plus petites stratégies, malgré que tu peux réfléchir vraiment longtemps d'avance aussi.
Okay. Okay, c'est vraiment intéressant parce que, honnêtement, c'est drôle parce que je tombe sur la même chronique que tu présentes ces deux jeux-là. Moi, ces deux jeux que tu vas présenter, c'est vraiment mon type de jeu.
Ouais, c'est,
vrai. C'est vraiment le fun parce que c'est ça. C'est que moi, j'aime bien les jeux de société, mais souvent, quand ça devient trop imaginatif, trop dans le hasard...
C'est pas assez concret.
C'est ça. Je suis pas assez concret, je suis pas assez dedans. Mais là, quand tu me rentres là, un truc, il y a 3 règles, puis let's go, amuse-toi avec ça, là. Ça correspond à ce que je fais dans la vie là, en fait, c'est vraiment le fun. Puis ben, tu sais, toi, tu dis que t'aimes le hasard. Je sais pas si t'as déjà fait ça, une chronique dans ce type-là, mais peut-être quelque chose qui serait intéressant pour le futur.
Des jeux de hasard.
Non, une chronique de ses jeux préférés, de tes jeux préférés.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant, effectivement. Ouais. C'est quoi mes jeux préférés?
Oui.
Les jeux préférés d'un expert là.
Ça pourrait être fascinant.
Mais c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ça que je me rends compte. Puis ma conclusion de mon expertise des jeux de société, c'est pas que il y a des jeux qui sont meilleurs que d'autres, mais ça, c'est dans la même catégorie. Parce que dans le fond, il y a tellement de jeux, il y a tellement un grand univers de jeux que dépendant de c'est quoi que toi t'aimes, puis c'est quoi tes types d'intelligence, puis c'est quoi que t'aimes faire, tu peux trouver un ou plusieurs jeux, ben, clairement plusieurs jeux qui peuvent te correspondre, puis que tu vas trouver le fun. Puis ça peut être différent. Puis là, moi, j'ai mes propres opinions sur ce que moi j'aime, mais c'est deux choses différentes pour moi reconnaître. Ça, c'est un bon jeu et ça, c'est un bon jeu pour moi. Parce que moi, je suis habitué de donner des jeux à plein de gens qui ont des opinions différentes de moi. Fait que Camisado, je sais, c'est un excellent jeu. Les gens vont toujours l'aimer, mais c'est pas mon genre de jeu à moi.
Exact.
Effectivement, un comparatif que moi j'aurais, c'est dans le domaine du cinéma notamment. Il y a des films que, qui ont été acclamés, qui ont gagné des grands prix et que j'arrive à voir toutes les qualités. Et quand je les regarde, je dis, OK, ça, c'est vraiment un bon film, c'est excellent. Sauf que moi, en fait, je suis là, puis ça vient pas me parler, ça vient pas me chercher. Là où ce que parfois il y a des films, là je vais vous avouer un de mes plaisirs coupables. J'aime bien Espion en herbe, alors que Espion en herbe, objectivement, c'est pas.
C'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, mais si t'as du plaisir en le regardant, il fait sa job. Là.
Exactement, c'est ça. Au final, il a fait ça pourquoi il est là. Donc c'est des films qui ont pas été nécessairement acclamés par la critique, mais quand c'est des films qui font du bien ou quand c'est des films qui viennent te chercher, peut-être que moi c'est aussi un appel à l'enfance parce que je l'écoutais, j'étais très très jeune, donc c'est venu stimuler mon imaginaire. Mission réussie, littéralement. Formidable. Donc il nous reste encore 15 secondes avant de partir en pause. Je vais donc vous mettre une musique qui va être au sujet de la prochaine chronique qui sera faite par moi-même. J'espère que vous serez en mesure de savoir de quel jeu il s'agit. Tout ce que je peux me permettre de vous dire, c'est que les développeurs ne sont pas ici. On se dit donc à après la pause.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chise.ca.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux puis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des Kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chis 94.3.
Donc, ce qu'une session en train d'entendre, c'était la musique de Mountain Blade Bannerlord. On parle ici du Hall Vaegir, qui est une des races jouables au sein de cet univers, de cet empire qui est Calradia. Donc, qu'est-ce que Mountain Blade Bannerlord? On parle d'un jeu qui a été développé par un studio turc qui s'appelle Tailwords Entertainment. Tailwords Entertainment, donc, ils avaient fait, il y a de cela, je crois que c'était en 2011, le premier Mountain Blade, donc, qui avait eu connu quand même un succès assez raisonnable, notamment par l'effort des communautés qui travaillaient dessus, qui avaient développé donc des mods, qui avaient par exemple rajouté un univers Game of Thrones où on pouvait donc rencontrer Tyrion Lannister ou Tywin, rejoindre leurs armées, se battre avec eux en tant que Bannerets. Donc éventuellement le studio a fini par se dire avec son succès qu'il voudrait se lancer en socio-financement et ils se sont par la suite lancés, donc le jeu est sorti en 2020, donc lorsqu'on parle de la suite Bannerlord Mountain Blade 2, le 30 mars pour être plus précis, donc il était sorti en alpha, donc le jeu n'est actuellement pas encore considéré comme étant complété, mais les gens qui l'ont acheté, donc on est en train de le financer afin que le studio et l'équipe puissent travailler dessus et le développer. On a beaucoup de bugs qui ont été corrigés depuis, donc j'avais attendu quand même un certain temps de voir que ça, les patchs allaient se stabiliser avant d'en parler, parce qu'on parle d'un jeu qui est quand même très ambitieux vis-à-vis de ce studio-là, mais on parle aussi d'un sandbox qui est particulièrement incroyable, c'est-à-dire que lorsqu'on commence la partie, on est plongé dans cet univers qui est Calradia, où on peut commencer en étant à peu près n'importe quoi. On peut avoir été un marchand, on peut avoir été un orphelin, on peut avoir été directement un noble, et l'objectif, ça va être un peu de fonder notre empire, ça va être de développer dans cet univers ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que si on veut décider d'être un marchand, d'acheter à bas prix dans certaines villes qui, elles, ont cette ressource-là, par exemple, on va dire du fromage, donc acheter à bas prix le fromage dans une ville pour ensuite aller le revendre à des prix forts dans des villes qui ont été récemment assiégées, donc qui sont en manque de nourriture, ben on peut décider de le faire. Si on veut se développer un empire commercial, c'est tout à fait possible. Si ce que l'on souhaite, c'est devenir, c'est fonder une tribu de guerriers, rassembler son armée, partir à la guerre et commencer à faire des conquêtes, ben c'est tout aussi possible. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement le fun avec l'univers de Mountain Blade, parce qu'il n'y a pas de quête principale. Du moins, le premier Mountain Blade n'avait pas de quête principale en tant que telle. Bannerlord a une pseudo-quête principale, dans le sens où on découvre Nerezes, qui est un ancien roi qui avait unifié Calradia, et on apprend que son destin, en fait, ça avait été de reconquérir tous les endroits. Et bien évidemment, notre personnage, ça peut être sa mission que de reconquérir Calradia au complet, de réunifier donc les peuples qui étaient partis en guerre civile. Lorsque l'on joue à ce jeu-là, c'est un RPG, c'est-à-dire que nous avons différentes statistiques que l'on va pouvoir augmenter et on a différentes variables. Donc, on va avoir une partie qui va être plus au niveau stratégique, où on va se promener sur la carte en temps réel et à ce moment-là, ben, on va pouvoir tenter des tactiques. Si, par exemple, on est en train de pourchasser des bandits, ben, si tu as tes capacités de tracking qui sont suffisamment élevées, tu vas être capable de voir les traces de pas des chevaux, des gens que tu recherches. Donc, tu vas pouvoir les pister, les suivre, te promener avec eux. Donc, c'est en vue du dessus, un peu à la manière d'une civilisation, et pour finalement les attraper. Suite à quoi, on va avoir une séquence qui va être un peu plus dans les dialogues. Donc, notre personnage, dépendamment de ses valeurs de charisme et d'intimidation, on va pouvoir essayer de régler des situations pacifiquement ou non. On va pouvoir essayer aussi de, avec nos statistiques de tactique, si jamais on se fait attraper par une armée qui est définitivement plus grosse que la nôtre, disons qu'on a une cinquantaine de soldats et qu'un empire ennemi arrive avec 200 soldats, mais on peut développer des tactiques. Donc, je vais abandonner 15 soldats à cet endroit-là pour parvenir à m'enfuir. Je vais m'alléger. Donc, si j'avais une grande quantité de ressources, si j'avais beaucoup de fromage, si j'avais beaucoup de baies, si j'avais beaucoup de nourriture en général, ben, je peux choisir de m'en débarrasser, m'en délester, afin que mon groupe, on soit capable d'aller plus vite, d'accélérer le pas. Donc, c'est toutes ces petites stratégies-là, c'est toutes ces petites ouvertures-là qui font que Bannerlord est un excellent jeu.
Et avoir beaucoup de détails dans ce jeu-là, de justement de petits points, de trucs à penser, de façon de...
Exactement. Puis même aussi, là, j'ai même pas encore parlé des petites quêtes qui finissent par devenir répétitives une fois que tu as suffisamment joué au jeu. Mais ça, on peut avoir confiance que puisque le jeu est encore en bêta, ils vont rajouter des quêtes. Là, pour l'instant, les dernières patchs, on parlait surtout de fixer les bugs. Il y avait des quêtes qui ne fonctionnaient pas, qui fonctionnaient mal. Mais effectivement, c'est beaucoup de petits détails qui sont fignolés. Les graphismes du jeu sont pas particulièrement incroyables. C'est-à-dire que si vous allez regarder entre Mountain Blade 1, qui est sorti en 2011, et Mountain Xenoblade Bannerlord qui est sorti en 2020. L'évolution graphique est pas folle. Quand on dit qu'en 9 ans, on a passé du premier Red Dead Redemption à Red Dead Redemption 2, qui lui est incroyable en termes de détails, on parle pas non plus du même niveau en termes de studio. Sauf que ça fait la job, donc on est capable de comprendre ce qu'on regarde, les textures sont quand même relativement belles, et on voit qu'il y a eu un travail, un effort du côté de reproduction médiévale. Dans le sens où les différentes armes qu'on va utiliser, il y en a qui sont plus adaptées à si on est en chevaux, à cheval, et il y en a qui vont être plus adaptés à si on est à pied, il y en a qui vont être plus adaptés pour briser des boucliers, et tout ça, en fait, ça a quand même une certaine fidélité, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la troisième séquence de jeu que l'on peut avoir, donc là, c'est lorsqu'on est en vue troisième personne et qu'on est vraiment sur le champ de bataille. Pendant qu'on est sur le champ de bataille, on peut diviser nos armées, donc en sous-sections. On peut décider qu'on a des archers, qu'on a une sous-section de soldats qui sont à pied, et qu'on a une sous-section de soldats qui vont être à chevaux. Donc, on peut se placer sur une colline et simplement leur dire « Ok, les archers, vous allez aller par là-bas. Je vois que la troupe ennemie est en train d'avancer vers les archers. Cavaliers, chargez-leur dessus. » Donc, tout ça, c'est plein de grands détails qui viennent permettre une très, très, très grande liberté de jeu, mais surtout qui viennent inspirer la communauté. Parce que lorsqu'on parle de Bannerlord, en fait, il y a une communauté qui est très active du côté mode. Ça, j'en avais parlé. Ça vient que ça nous permet d'adapter le jeu. Donc, il y avait des gens qui avaient développé, comme je l'avais dit, un univers Game of Thrones. On peut aussi commencer à avoir des guerres napoléoniennes, rajouter des armes à feu. On peut décider de recréer une carte. Il existe même un mode qui s'appelle Diplomatie qui venait rajouter des fonctions de dialogue. Ce qui fait que la communauté et le studio de développement travaillent un peu main dans la main. Et ça, c'est le fun parce qu'il y a une belle écoute entre les deux. Donc, il y a une espèce de mariage qui se fait entre ces deux-là. Et pour en revenir à lorsque je parlais de fidélité médiévale, par exemple, si on participe à des tournois et qu'on fait une joute médiévale, savoir utiliser son cheval est aussi important que de bien utiliser son arme. C'est-à-dire que si tu utilises, si tu cliques pour préparer ton arme et que tu la relâches trop tard, tu vas manquer le cavalier qui est sur le cheval. Si tu la relâches trop tôt, tu vas peut-être atteindre le cheval plutôt que le cavalier. Et si tu la relâches pendant que ton cheval décélère, donc si tu veux être certain de toucher ta cible, mais que pour ça tu ralentis, tu vas faire moins de dégâts à l'adversaire, puis peut-être que lui il va parvenir à t'éliminer d'un seul coup et te faire tomber de ton cheval lorsque toi tu en feras pas assez. Donc tout ça, c'est des timings, c'est des micro-détails. Le jeu a l'air très très simple lorsqu'on l'observe, sauf qu'on rentre rapidement dans des stratégies qui sont grandioses, qui sont quand même assez folles. Et simplement pour ça, moi, je vous recommanderais de vous procurer Bannerlord, si ce n'est pas maintenant, au moment de sa sortie, qui n'a pas encore été annoncée, mais qui devrait être dans les prochains mois.
Ça va venir éventuellement.
C'est ça, ça va finir par arriver, surtout qu'on voit que l'équipe de développement, ils travaillent fort dessus. C'est-à-dire que là, on a eu beaucoup de patchs qui sont venus fixer des bugs. On a cleané donc l'ensemble de la chose, mais on voit aussi que le sandbox, parce que c'est un sandbox au final, est préparé. C'est-à-dire que là, on a tout ce qu'il faut pour avoir un jeu qui va être un énorme succès. Il reste juste à rajouter du fignolement, donc rajouter
c'est
des
toujours
quêtes.
Ça à la fin, c'est ça toujours ça qui est resté pour la fin du développement,
parce que la seule chose qui vient tuer le jeu au final, moi après une soixantaine d'heures de jeu, c'est qu'après 60 heures de jeu, tu finis par connaître un peu les mécaniques, tu finis par comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis ça devient répétitif. C'est-à-dire que j'ai fondé mon empire commercial, je vais aller acheter un nouveau commerce qui est dans une autre ville. Cette ville-là, c'est quoi son plus grand commerce? Ça va être le commerce, par exemple, de la poterie. Je vais acheter je vais m'acheter une place pour faire de la poterie. Si je suis dans de la conquête, je viens de conquérir un château, j'ai convaincu le roi de m'offrir le château que j'ai conquéri. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des troupes, je vais aller conquérir un autre château, je vais mettre des troupes, je vais aller conquérir un autre château. Donc, au bout d'un certain temps de jeu, ça finit par devenir répétitif. Mais ça se fixe rapidement en rajoutant des quêtes supplémentaires.
Pour conquérir un château, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a plus de technicité. Comme Jérémy le mentionnait, quand tu rentres sur le champ de bataille, il va y avoir plusieurs stratégies que tu pourras adapter. Tu pourras juste avoir des cavaliers, si tu veux, que des archers, etc. Puis ça en soi, là, on le dit comme si c'était facile, mais c'est justement, en regardant ce streamer-là, une des choses que moi j'avais remarqué, c'est quand tu mets un mode extrême, puis que tu rajoutes plein de modes qui complexifient le jeu et la stratégie, d'un seul coup, le jeu prend plus de temps, puis ça devient vraiment plus complexe. Moi, je me rappelle, je l'ai regardé jouer, il joue pendant 7 heures, puis là après, moi je commence au début de son stream, puis vers la fin, j'arrive, puis comme, je viens de perdre tout ce que j'ai fait parce qu'il joue en mode hardcore, puis dès qu'il se fait tuer, c'est fini, tu sais. Puis là, c'est genre, j'ai réussi à conquérir comme, je sais pas, comme trois châteaux, je sais pas, tu sais. Puis, fait Le jeu est pas aussi simple là, qu'on le pense. T'sais, c'est vraiment, vraiment complexe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun à regarder. Pas joué, jamais joué. J'ai pas d'ordi qui peut run ça, malheureusement. J'ai essayé de le faire sur mon ordi. ça allait bien trop lentement. Tu sais, les graphiques, ça marchait pas en tout. Là, ça allait pas suivre.
Effectivement, comme tu l'as dit, avoir une certaine connaissance au niveau des guerres médiévales, comment elles se déroulaient, en fait, ça vient mm-hmm. t'aider. C'est-à-dire que moi, lorsque je joue, en fait, j'essaie de pas trop me casser la tête. J'essaie d'avoir juste des unités qu'on rentre dans le tas, puis ben, c'est qui gagne? C'est celui qui a le plus de soldats. Là. Moi, je fais du 1 pour 1, littéralement. Okay. Mais des gens qui vont vraiment se donner à fond, là, il y a des manières de faire des combats qui vont durer extrêmement longtemps, mais qu'au final, tu vas avoir perdu presque aucune troupe, alors que c'était peut-être 200 contre 200. Et là, on parle même pas encore du multijoueur. Lorsqu'on vient parler du multijoueur dans Bannerlord, bon, là, il est un peu plus déserté parce qu'il y avait eu une grosse hype lorsque le jeu venait d'entrer en accès anticipé, puis là, ça l'a redescendu. On va attendre que ça revienne lorsque mm-hmm. le jeu va sortir pour de vrai, notamment avec des streamers comme Bob Lennon qui y avait joué beaucoup. Streamer et YouTuber. Et dans Bannerlord, il y a trois modes de jeu. Il va avoir un mode siège. C'est quoi le mode siège? C'est-à-dire que tu as ta petite armée, donc tu vas avoir une trentaine de soldats. Tu vas prendre un de ces soldats-là et vous allez devoir commencer à avancer au sein du château. Donc ceux qui sont assiégés doivent vous repousser en utilisant des catapultes, en utilisant de leurs arcs à flèches, en vous empêchant de traverser les portes. Alors que vous, ben, vous allez avoir un bélier, vous allez pouvoir utiliser des catapultes aussi à votre tour, et votre objectif, c'est de défoncer les portes du château afin de pouvoir passer à la deuxième étape. Et lorsque vous allez arriver à la deuxième étape, ben, vos personnages, lorsque vous allez vous faire tuer, vont pouvoir eux aussi débuter un peu plus tôt. Et l'objectif, c'est de se rendre au bout jusqu'à la fin. Si on vient faire ce qu'on appelle du skirmish, ben là, à ce moment-là, on vient contrôler un petit bataillon, et là, on va lui donner des ordres. C'est là que ça devient très, très, très stratégique, parce que là, t'es plus un soldat parmi, passer du 60 versus 60, les sièges, t'es plus un soldat parmi tant d'autres. Tu es maintenant le leader d'un bataillon de NPC, et tu dois leur dire, va là-bas, prends le contrôle de tel territoire. Et aussi, il y a des formations. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, à nos unités en bouclier, de se mettre en formation cercle pour éviter que les troupes à cheval parviennent à nous traverser et à attaquer nos archers qui sera à l'intérieur. Mm-hmm. On peut se mettre en formation triangle, encore une fois. Donc, toutes ces formations-là viennent rajouter des dimensions supplémentaires. Et lorsque tu joues contre des gens qui sont particulièrement bons, pour en avoir fait les frais, c'est extrêmement difficile de t'en sortir. Donc, lorsque tu joues contre quelqu'un qui a toutes les compétences, qui connaît les stratégies, waouh, tu peux te faire ramasser très rapidement.
Ouais, c'est vraiment, en tout cas, moi, de ce que j'avais vu, là, pour moi, là, ça a l'air vraiment d'être un jeu quand même qui demande beaucoup de technicité, beaucoup de connaissances. Mm-hmm. Tu peux pas juste. Oui, tu peux juste, mais si t'es en mode facile, tu sais, mais rendu là, comme jouer avec ton petit frère, là aussi, ça va être le même degré de difficulté, tu sais.
On disait que Nassim est compétitif tout à l'heure.
Non, mais, tu sais, c'est ça, en fait. Non, mais, c'est vraiment, je pense, l'un des avantages de ce jeu-là, surtout, ben, comme c'est un sandbox, finalement, tu te fais du fun toi-même, right? Fait pour bien se faire du fun, je pense qu'il faut vraiment pousser le jeu dans les extrêmes qui peut t'amener, dans le plaisir qui peut t'amener, parce que bon, moi, visuellement, j'ai pas trouvé ça dégueu, honnêtement.
C'est pas laid, mais on s'entend qu'on n'est pas sur Elden Ring, on n'est pas sur un Dark Souls 3, on n'est pas sur Red Dead Redemption 2. Le jeu a des beaux graphiques pour 2011.
Ok, exactement, c'est ça. Moi, personnellement.
Mais 2011, c'est pas des mauvais graphiques.
Exactement, tout à fait. Donc, au niveau des graphiques, c'est bien. Après, voilà, donc, ça, c'est un aspect aussi, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais comme il y a différents types de points de vue, right? Oui. Donc, au début, on se promène comme sur une carte, si je m'appelle bien, du dessus. Puis ensuite, quand on rentre dans un château, dans un combat, là, on va rentrer en troisième personne. Puis là, on va se battre sur une plaine, on va se battre
dans un désert,
sur de la neige, dans des collines, ou
on passe dans un château,
c'est ça. Ça, moi, j'aimais beaucoup les sièges, justement.
Ouais.
On est face à un château, on a des boulets de canon qu'on peut lancer.
Mais ça, une des grandes forces de Bannerlord, c'est ces sièges-là. Ils sont tellement bien fait, il y a un thrill, vous m'excuserez l'anglicisme, là, mais il y a un thrill au fait de commencer à assiéger un château, puis de voir que t'es parvenu à défoncer ses murs, de voir que tes ingénieurs qui, eux, utilisent les catapultes, parce qu'il faut vraiment orienter sa catapulte, il faut tirer comme il faut, sont parvenus à briser la porte. Là, on parle d'une excitation qui est incroyable, qui est sans précédent. Là. C'est du 60 versus 60. C'est un brouhaha, c'est le chaos, et pourtant, c'est tellement amusant.
C'est ça, moi j'aime beaucoup justement. Les jeux vidéo, je l'ai beaucoup aimé, moi, dans le stream, honnêtement. Puis c'est ça, parce que moi, j'ai regardé ça en stream. Puis là, tu vois, t'as genre le streamer, il réussit justement à rentrer dans le château. Là. Mm-hmm. Puis là, là, tu vois, là, tout le chat, là, tout le monde est genre hypers, hypers. Parce qu'on a réussi à rentrer. Puis parce que souvent, c'est ça, souvent, dans un siège, par exemple, tu pourrais avoir cette. Comme toi, par exemple, t'es plus fort, mais eux, vu qu'ils ont un mur, il faut que tu puisses détruire le mur, il faut que tu puisses rentrer. Puis là, dès qu'il y a un trou, ben, oh, wow, nice. Puis parce que finalement, eux, ils ont rien derrière. C'est vous, ça. Vous êtes plus fort. Donc, si seulement tu réussis à rentrer, c'est tout ce que t'as besoin, en fait. Tu sais, il y avait beaucoup dans les streams, c'était ça, sa stratégie, c'était juste, on peut-tu rentrer, s'il vous plaît, là?
Toc, toc, toc.
Mais c'est ça, fait que, tu sais, dès qu'il rentrait, là, tout le monde est excité, là, dans le chat, là. T'as genre comme 3000 personnes, là, tout le monde est excité. Oui. Puis toi aussi, là, t'es excité, là, je crache ma soupe, là, je suis genre, ouais, c'est vraiment le fun.
Il a réussi, ouais! C'est mieux qu'un match de hockey.
C'est ça.
Et c'est ça, puis surtout lorsqu'on parle de Bannerlord, en fait, ça va être ma conclusion, mais on parle d'un jeu qui vient vendre du rêve, puis ça c'est quelque chose qui n'existe de moins en moins, j'ai envie de dire, où ce que maintenant des jeux ont des codes qui sont très définis, qui sont très clairs, c'est-à-dire que si on parle par exemple d'un Red Dead Redemption 2, je sais exactement à quoi m'attendre, je sais qu'il y a une finalité, je sais que le jeu a des mécaniques qui sont très claires, qui sont très précises. Le truc avec Bannerlord, c'est qu'ils sont pas encore à leur plein potentiel, on sait pas vers où ça peut aller, un peu à la même manière que un Star Citizen qui n'est pas encore complété. Ben, le jeu peut aller dans toutes les directions. On peut rêver, on peut se permettre de se dire « Ah, ça serait fou s'ils rajoutaient ceci, ça serait fou s'ils rajoutaient cela. » Fait que, comme je l'ai dit, puisqu'ils sont proches de la communauté, ben, c'est que c'est une réalité.
C'est encore possible, c'est ça.
Ben, c'est ça, c'est encore possible. Puis si c'est pas possible, ben, on peut créer un mode qui va permettre de le faire. Donc, ça vient vendre du rêve, ça vient se dire « Ok, ben, moi, ce que j'aimerais, un de mes souhaits personnels à moi, là, ça serait que Bannerlord, on puisse jouer à deux en mode compétitif. » C'est-à-dire que tous les deux, on commence dans un village qui est séparé. Mm-hmm. L'objectif, on a, disons, on va dire 4 heures pour se créer la meilleure réputation, se définir la meilleure armée, se définir une économie qui est solide. Puis une fois que ces 4 heures-là sont complétées, ben là, nos deux pays rentrent en guerre. Puis c'est celui qui va avoir le mieux dominé son propre pays au travers des NPC qui va parvenir à prendre l'avantage sur l'autre. Ça pourrait être complètement fou, là. Et après ça ouvre la porte à des parties où ce qu'on est 8 joueurs, des parties. Ben ça reste une possibilité. De la même manière que, ben, on peut développer une histoire complète au sein de Bannerlord. Il y a manière de venir chercher des mécaniques multijoueurs, de venir rajouter, de venir complexifier la chose. Tu l'as dit, I Kill You, ben, ils rajoutaient des modes pour rendre le jeu plus difficile, pour rendre les sièges plus complexes. Ben, là, c'est it's free real estate. Ben, là, on peut s'amuser autant qu'on veut, on peut rêver.
C'est ça, ben, les modes, on a déjà vu comment les modes peuvent carry un jeu déjà tout seul. Avec GTA, ça, par exemple.
C'est quelque chose, en tant que développeur qui n'a pas beaucoup de ressources, de permettre à la communauté de travailler dessus, c'est brillant, en fait, parce que c'est sûr que tu n'auras jamais... faut que t'ailles pour avoir un studio qui est aussi fort que les mods, c'est pratiquement impossible, là, parce que tu sais, il y a des milliers de gens qui vont construire des choses. Mm-hmm. Là-dessus, il y en a plein, ils vont être vraiment en poche. Mm-hmm. Mais sur tous ces gens-là, ben, il y en a certains qui vont faire des trucs vraiment intéressants, puis il y en a d'autres qui vont le renforcer. Puis là, c'est sûr qu'on n'a pas. C'est impossible d'avoir cette quantité-là de gens qui travaillent dans un studio. T'sais.
Exact. Ben, même Bethesda finit par le comprendre, parce qu'au départ, ils essayaient de bannir les mods, puis ensuite, à un moment donné, ils se sont rendus compte. Ben, crime, il y a de l'argent à faire avec ça.
Ouais, c'est ça.
Non, mais tu sais, on pense à Warcraft 3 qui avait justement, qui ont inventé une façon de faire. Puis à Starcraft, que tu pouvais faire tes propres cartes. Puis finalement, ça l'a donné naissance à des nouveaux jeux puis des styles de jeux complètement. Les MOBA sont venus de là. Là,
ben, littéralement, League of Legends, ça origine de là. Le concept des MOBA, ça vient de là-bas. Puis comme tu l'as dit, Nassim, ça, c'est un très bel exemple. Puis je vais faire une parenthèse là-dessus. Même en fait, on va carrément partir sur ce sujet-là.
Ben, attends, juste, là, vous êtes en train de dire que ça, c'est là que l'origine.
On avait fondé carrément une ville dans laquelle, ben, si tu roulais alors que la lumière était rouge, ben, tu pouvais te pogner un ticket. Il y avait des joueurs qui étaient des policiers, il y avait des joueurs qui étaient des ambulanciers, il y avait des joueurs qui étaient des taxis. Fait que t'interagissais avec les joueurs, tu pouvais te développer ta propre mafia, tu pouvais... Fait que les possibilités étaient devenues infinies grâce à ça. Puis ça avait originé d'un mode.
Ça donnait la liberté aux joueurs de venir modifier le jeu ou de venir y jouer de la manière qui leur convient le plus. Ça ça te permet d'agrandir ton jeu bien au-delà de ce que tu peux faire toi en tant que développeur.
Ben, exact. Surtout qu'à un moment donné, en tant que développeur, je pense que tu as une vision qui est très claire, qui est très précise et tu veux peut-être plus en déroger. Puis c'est pas souiller ton jeu que de rajouter des modes qui sont pas fidèles à ta vision. Je veux dire, il y a des gens qui ont probablement créé des modes pour rendre Dark Souls plus facile. Est-ce que ça déroge à la vision des jeux Dark Souls? Oui. Est-ce que ça permet à des gens de rentrer dans le jeu plus facilement?
Ben, aussi, c'est vrai, c'est aussi. Mais c'est comme moi, je connais plus les jeux de société, mais c'est le même principe. Tu fais un jeu de société, tu fais le meilleur jeu possible selon toi puis selon les gens à qui tu le fais tester, mais tu peux jamais avoir le jeu idéal pour tout le monde. Mm-hmm. Fait que de permettre aux personnes de venir apporter les modifications qui font que pour eux, c'est plus le fun, ben ça devient ce qui peut toucher le plus de gens au final.
Ben exact, puis c'est ça qui est fascinant aussi parce que tu viens de me faire penser, mais en fait, dans Donjons & Dragons, Wizard of the Coast, ils ont rajouté des extensions éventuellement sur D&D 5.0, Tasha's Cauldron, Xanathar's, puis aussi maintenant, il y a des classes que certaines personnes jouent que ben c'est pas des classes officielles, là, c'est-à-dire que je pense que le Blood Hunter en est un bon exemple.
Ouais, techniquement, c'est officiel.
C'est ça, c'est pas officiel, alors que c'est une classe qui est définie, qu'on est capable de jouer, puis qui se sert très très bien à l'intérieur du jeu. Mais là, on parle littéralement de mode au sein de jeux de société, bah ça c'est fort, c'est la puissance d'avoir une bonne communauté, puis ça vient encourager l'imagination. Et n'est-ce pas l'objectif principal des jeux vidéo et des jeux de société que de venir stimuler l'imaginaire?
Effectivement.
Ouais. Il nous reste encore 2 minutes avant de devoir se quitter. J'en profite pour vous mentionner que des Kiwi et des Nerds est toujours en période de recrutement pour avoir de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles chroniqueuses. On aimerait ça entendre vos voix, entendre parler de jeux que l'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, parce qu'après tout, avec mon groupe de chroniqueurs, on a des jeux qui sont très définis, que l'on aime. On aime expérimenter, on aime essayer de nouvelles choses, mais parfois, si on n'a pas la personne qui peut nous faire rentrer dans la forêt interdite, c'est difficile d'y accéder. Et j'en profite aussi pour vous inviter à venir nous voir sur notre page Facebook. Je fais des publications de temps à autre où j'essaie de garder la communauté assez active. On parlait de communauté tout à l'heure. J'aimerais savoir une belle communauté où on est capable de se parler des jeux vidéo dont on vient de parler, de partager nos expériences de Bannerlord. Et on aimerait aussi avoir vos anecdotes, que ce soit vos anecdotes de jeux de société, de jeux vidéo, ou tout simplement des anecdotes un peu cocasses qui sont plus ou moins en lien. Par exemple, vous alliez magasiner, une robe de balle, et finalement, vous êtes passé à côté d'un commerce qui vendait de l'équipement de grandeur nature, puis votre robe de balle, c'est aussi devenu votre avis pour les grandeurs nature. Il y a des histoires comme ça peut être, ça peut être assez amusant. Je vous laisse donc une dernière minute si vous avez de dernières choses à dire, messieurs.
Moi, je vais remercier François pour les deux jeux, franchement. Moi, je vais bien prendre note, puis je vais y jouer. Puis justement, comme dit Jérémy, si jamais vous nous écoutez, puis vous avez la chance de jouer au jeu qu'on vous conseille, ça serait vraiment le fun de nous le dire, puis de nous dire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, parce que moi franchement, comme je vous dis, c'est vraiment une chance d'être venu aujourd'hui, puisque je viens de découvrir deux jeux que je vais probablement aimer, fait que merci François.
Oh ben c'est un grand plaisir, tu sais, puis pour moi c'est tellement ça important, puis c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup mon travail d'animateur au Randolph, c'est pour moi faire découvrir les jeux de société aux gens, ou de même voir des gens qui des fois qui disent oh moi j'aime pas ça les jeux de société, ben il y a un jeu de société qui te correspond, tu sais. Tout le monde a quelque chose qui peuvent leur convenir. C'est que juste de trouver c'est quoi pour avoir le plus de plaisir possible. C'est juste ça l'idée. Là. Je veux dire, les jeux de société existent depuis l'Antiquité, de ce qu'on sait, probablement avant. T'sais.
Ben oui, ben, fallait bien que les hommes des cavernes ils s'occupent d'une manière ou d'une autre.
Ben, c'est sûr qu'il y avait des jeux avec des règles. Donc, pour moi, c'est ça. C'est si vous trouvez pas quelque chose, vous avez de la misère à trouver quelque chose d'intéressant, mais parlez-en à d'autres gens qui en connaissent beaucoup, puis ils peuvent vous aider. Là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de faire découvrir des jeux aux gens.
Sur ces belles paroles, on vous invite donc à découvrir de nouveaux jeux de société. Il y aurait notamment le site web du Randolph qui en vend, qui pourrait être intéressant. On vous invite aussi à expérimenter. Donc, si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes un PC gamer, allez sur Steam, allez regarder les nouveautés, allez regarder aussi les jeux indépendants, surtout les jeux indépendants, ceux qui sont le plus obligé d'innover afin de réussir. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Kiwi et The Nerds. Merci à tous.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé.
d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui rendraient votre soirée plus lumineuse, ben sachez que l'émission 10 entre nous est de retour cet automne et que la nostalgie coule à flot.
On vous amène dans notre enfance, dans nos premiers parties. On vous fait découvrir notre lieu natal, nos projets personnels et plus encore. À travers la musique, le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, ces passions qui nous reflètent mieux que la vie en elle-même. Ne manquez pas 10 entre nous, un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
The Witness, l'album de Soons, disponible maintenant via Secret City Records. Ne manquez pas le spectacle à l'Antibar le mercredi 12 octobre. Porte 19h, spectacle 20h. Billets en vente maintenant. Soons, en concert le 12 octobre. Une présentation de Secret City Records, Blue Skies Turns Black et Chiz 94.3.